l'atelier des médias.
Rarement une époque aura vu autant de créativité, d'innovation et d'entrepreneuriat dans l'univers des médias. L'Internet et ses avatars ont complètement explosé les modèles existants, bousculé les industries, mis à bas des titres historiques. Parallèlement, il ne se passe plus une journée sans qu'une nouvelle publication, un nouveau site, une nouvelle technologie ne soit lancée par des start-upers ou de grands groupes. C'est pour cette raison que nous avons choisi de consacrer notre mois de mars à ce printemps médiatique. Après les sites web la semaine dernière, nous explorons aujourd'hui des projets vidéo. Dans la seconde partie de l'émission, il sera notamment question de Way or Die, un film interactif, un film réellement interactif, signé Simon Buisson et Olivier Domangel.
Au cinéma, on écrit une histoire pour une infinité de personnes, donc l'histoire doit être la plus parfaite possible pour convenir à une infinité de personnes. Avec Olivier, c'est tout l'inverse, on écrit une infinité d'histoires possibles pour une personne.
C'était Simon Buisson que vous pourrez entendre dans la deuxième partie de l'émission, deuxième partie où il sera également question de Spicy, une plateforme qui produit et diffuse des reportages d'informations à tendance punk, accessibles sur abonnement, une sorte de Netflix français du documentaire d'investigation.
Ces hommes qui improvisent une partie de football appartiennent à Ansar al-Aqida, une composante très influente de la rébellion djihadiste dans le nord de la Syrie. Ce sont eux que nous allons suivre pendant plus d'une semaine.
Tout de suite, nous explorons une œuvre au nom étrange, ASV-STP. Les amateurs de chat auront reconnu ces lettres. Pour les autres, il suffit de rester avec nous. Je suis Yann Malouf, 39 ans, Mâle, Paris. Vous écoutez l'atelier des médias, co-signé Simon Decreuse, Mathias Virilli, Camille Deloche et Manon Mella, qui signe le premier sujet du jour, ASV-STP, un documentaire qui sera bientôt mis en ligne sur une plateforme web participative.
Ça m'est arrivé de rencontrer des gens par Internet. Avant ça, ça m'était jamais arrivé, ça me dégoûtait. J'avais une image du bolos, de la fille qui fait 250 kilos, qui est incapable de rencontrer des gens dans la vraie vie, qui est obligée de se cacher derrière un écran pour avoir le droit d'être aimée, quoi.
J'ai rencontré un mec sur Adopt un mec, je suis quand même restée 6 mois avec lui.
J'ai toujours eu cette démarche capitaliste d'en vouloir plus. Donc pour les sites de rencontres, en fait, ça me permet de faire encore plus de rencontres et accessoirement de coucher avec plus de filles.
Bonjour Ariane Picoche.
Bonjour.
Tu es journaliste et réalisatrice de ASV-STP. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Alors ASV-STP, c'est un projet transmédia et collaboratif autour de la génération Internet et de son rapport au couple. Le point de départ, c'est un documentaire. On a interviewé avec Florian Delhomme 6 personnes que l'on connaissait, 3 filles, 3 garçons, des amis, sur leur vision de l'amour et des rencontres modernes. ASV-STP, c'est un sigle qui veut dire âge, sexe, ville, s'il te plaît. C'est un sigle qui fait un clin d'œil en fait à un forum de discussion, un chat des années 2000 qui s'appelait Caramel. Et à l'époque, pour entamer la conversation avec quelqu'un, c'était pas coucou ça va, c'était ASV-STP. En gros, donne-moi ton âge, ton sexe, ta ville, et puis je te dirai si je peux parler avec toi. Donc il y avait ce clin d'œil pour ceux qui ont connu les débuts d'Internet, donc ma génération, la génération Internet. Et par ailleurs, il y avait un jeu sur cette idée que Internet développe son propre langage et parfois des termes pas hyper compréhensibles pour les néophytes. Et on voulait un peu piéger les gens, voilà, voir ceux qui allaient comprendre et pour les autres éveiller la curiosité.
Le dating est devenu un produit de consommation. Alors moi, je vois deux choses. La première, c'est les sites. Ils sont là pour faire du fric. Ils sont pas là pour aider leurs prochains.
C'est vrai, dans le fonctionnement des sites de rencontres, on a l'impression que c'est en gros la matérialisation de la logique de marché appliquée aux rencontres.
Pourquoi est-ce que tu as eu envie de créer un documentaire sur la génération Internet face au couple ?
Alors, il y a... Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons personnelles et professionnelles. Moi, en tant que journaliste, ça fait maintenant quelques années que je développe les problématiques de la sexualité, du couple et des phénomènes culturels qui gravitent autour. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Et pour la partie personnelle, je peux avouer déjà que Florian Delhomme est un ex-copain. Donc ça nous intéressait aussi de faire un projet, de construire un projet à deux alors qu'on n'est plus ensemble depuis plusieurs années. Et puis finalement, entre ma séparation avec lui mon copain actuel, ça a été un grand n'importe quoi de relations non définies, de coups d'un soir, d'expériences, de moments où j'étais avec des gens sans vraiment être avec eux. Et puis je me suis rendu compte qu'autour de moi, il y avait pas mal de personnes, filles ou garçons, dans la même situation. Et je me suis dit, c'est quoi cette période où on a l'air de pas vouloir s'engager, de pas vouloir nommer les choses, et qu'est-ce que ça dit de nous? Et l'idée, c'était, pour compléter les travaux de spécialistes qui existent déjà depuis des décennies, d'aller interviewer des gens de cette génération-là, de les pousser à s'interroger avec nous. Et donc, finalement, le point de départ, il est assez intime, il est assez personnel. On part vraiment de nous, de questionnements perso. On implique des proches et on veut que ce soit tentaculaire avec une plateforme web où là, n'importe qui pourra réfléchir avec nous. Et pas forcément d'ailleurs que des personnes qui appartiennent à cette génération 18-35 ans.
Alors j'ai lu dans le dossier de presse, donc je sais pas si c'est toi qui l'as rédigé, mais en tout cas il est écrit que votre démarche ne se veut pas objective. Pourquoi ?
Parce que on est nous-mêmes nos propres cobayes en fait. Pour moi, même si je traite ces problématiques en tant que journaliste, je pense que j'ai un regard professionnel et analytique. Mais de l'autre côté, je sais que moi aussi, j'ai une vie amoureuse et sexuelle assez complexe. Et l'idée, là, c'est un peu de s'auto-regarder le nombril, parce que de toute façon, il s'agit de ça aussi. Hein, c'est la génération de la mise en avant, du narcissisme, etc. Et en même temps, de se tourner vers les autres, parce que c'est aussi la génération du partage. Et donc, cette non-objectivité, elle vient de là. Et je ne sais pas si les auditeurs connaissent Masters of Sex, qui est la série adaptée des travaux de Masters et Johnson, ces sexologues dans les années 60-70 qui ont vraiment révolutionné cette discipline. Mais il y a un peu de ça, parce que eux ont vraiment rencontré plein de couples, ont fait plein de tests vraiment sur le terrain. Et dans la série, on voit que eux-mêmes deviennent les cobayes de leurs propres recherches. Et nous, c'est un peu ça, c'est Masters of Love, en fait.
Bonjour, je m'appelle Florian Delhomme et j'ai co-réalisé avec Ariane Picoche le documentaire ASV-STP.
Florian, est-ce que tu peux nous décrire les profils des différents personnages qu'on trouve dans le documentaire ?
On va dire qu'il y a Charlotte, par exemple, c'est l'authentique. Il y a Florian qui serait plus la romanesque, qui préfère une rencontre dans un bar que des rencontres sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres. Il y a Mylène qui est plus la cérébrale, Alex le lover. Moi, je serais le désinvolte. Et Stéphane, qui se projette toujours dans le futuriste, parce qu'il pense déjà à la réalité virtuelle et à l'avenir de tout ça. Donc c'est vraiment des profils différents et des usages différents des réseaux, des perceptions différentes, et c'est ce qui est intéressant.
Comment ça se fait que tu as voulu participer au documentaire ?
Bon, alors c'est un peu atypique, c'est qu'on s'est fait lâcher par un proche. En même temps, il s'avère que j'ai commencé à utiliser les sites de rencontres en 2003, en fait, à l'époque de Mythique, à l'époque où c'était un peu mal vu. Donc j'ai une expérience, ça fait 10 ans, quoi. Donc j'utilisais ça plus partiellement, tu sais, 2-3 mois, et après j'arrêtais, machin. Donc au niveau de l'histoire et de l'évolution des sites de rencontres, des usages qui en sont faits et de la façon dont c'est perçu, j'avais mon mot à dire, voilà.
C'est quand même atypique, quand on réalise un film, d'en être aussi le personnage et de se dévoiler à ce point. Est-ce que ça a été difficile pour toi, ou est-ce que tu l'as fait sans grande difficulté ?
C'était étrange. Comme je suis habitué à être derrière la caméra, à toujours être un peu en retrait, j'ai aucun problème avec mon entourage à partager mes histoires ou à débattre. Mais se retrouver devant la caméra, c'était au début, tu vois, il fallait que je me mette à l'aise et que je commence à vraiment à lâcher un peu, tu vois. Mais c'était assez intéressant, en fait, et je suis vraiment content d'avoir pu partager la façon dont j'utilise les sites et ma philosophie par rapport à ça. Parce que je pense vraiment que ce sont des outils neutres, et les gens font ce qu'ils veulent. Et il y a une vision des fois un peu pessimiste des sites de rencontres. Les gens sont seuls, ils vont et comme je dis, ils n'arrivent pas à s'arrêter. Et moi, finalement, j'ai toujours su ce que je voulais. Je voulais partager ça, le fait que j'ai toujours eu des relations très courtes. Et en fait, j'ai toujours utilisé ça comme un, comme je le dis, c'est une démarche capitaliste pour faire plus de rencontres. Et pour moi, ça a toujours été fun, voilà, d'utiliser ça. Et je voulais partager un peu ça et faire part de mon expérience.
RFI.
Il faut vraiment savoir se vendre. Et il suffit des fois d'un mot ou deux dans un profil pour complètement foirer et que les nanas viennent pas. Ou d'une photo, d'une mauvaise photo de profil. Et en fait, ça change tout.
C'est basé absolument pas sur des critères moraux. C'est que physique.
C'est comme dans les rayons d'un supermarché. Au moins, tu sais où t'achètes ton poulet.
Les femmes d'aujourd'hui sexualisent tout.
Oui, il y a des photos, c'est un peu étalage de chair et de marchandises.
Vu que maintenant, même pour des relations basiques, il faut absolument une femme montre son décolleté ou montre son cul, c'est clair que dans une relation de séduction, il faut en montrer encore plus. Et je trouve ça ridicule parce qu'en fait, à trop en voir, t'as plus envie d'y goûter, quoi.
On est plus dans l'hypermarché, voilà. Et bon, on était peut-être plus dans le marché, quoi, avec des petits marchés locaux. Mais on consomme au final. Donc, voilà. Mais cette notion de consommation d'être humain, entre guillemets, parce que c'est, ça reste une image, hein, c'est, ne me choque pas plus que ça, quoi.
Comment est-ce que la génération Internet, donc la génération des 18-35 ans, gère-t-elle ses relations de couple finalement ? Qu'est-ce que toi tu as appris et qu'est-ce que tu pourrais apprendre à ceux qui nous écoutent ?
J'allais répondre spontanément, elle les gère mal, ou elle ne les gère pas peut-être. C'est compliqué parce que je pense que le couple aujourd'hui n'a plus la même résonance qu'il y a quelques décennies. Il y a eu une vraie évolution en France qui est encore en marche selon moi. Dans les années 60-70, il y a eu une révolution sexuelle, féminine. Les femmes ont eu accès à des moyens de contraception. Enfin, tous ces progrès scientifiques et donc par ricochet sociétaux, politiques, etc. ont permettent progressivement de détacher la sexualité du couple, de se dire qu'on peut être avec quelqu'un sans forcément se marier avec lui. Enfin voilà, il y a des réelles évolutions qui ont existé. Nous, on est les enfants de ça. Il y a un héritage français sexuel, une libération sexuelle qui a eu lieu dans les années 60-70, qui a permis une plus grande indépendance des femmes, qui a permis de détacher la sexualité du couple, notamment. Et dans le même temps, il y a une influence américaine, dans plein de niveaux de notre vie, une influence culturelle qui se manifeste également dans le domaine des rencontres. La mondialisation qui s'opère encore, évidemment, gagne du terrain, et à partir du moment où Internet est apparu dans tous nos foyers, la mondialisation a continué de s'étendre. On a pu, en tout cas potentiellement, rentrer en contact avec plein de gens et donc adopter un modèle pour moi importé des États-Unis, qui est la culture du date, la catégorisation. Voilà, donc on a un outil d'un côté qui est Internet, qui apparaît, qui se démocratise. On a accès à d'autres outils qui dépendent de cet Internet, qui sont des applications, des plateformes de rencontres, des réseaux sociaux. Et de l'autre côté, on a un modèle américain sous-jacent qui est la catégorisation, le communautarisme. Donc quand tu vas sur un site de rencontre, de plus en plus, c'est ça. C'est tu coches la case « je cherche un plan cul » ou tu coches la case « je cherche un hipster » ou un afro ou un gay ou un pansexuel. Donc pour moi, on est les enfants de ce mélange-là. Et on est à une jonction entre un héritage français et une influence américaine. Et en gros, moi, la grande question, et je pense que inconsciemment, c'est celle qu'on se pose, c'est vers quoi on va ? Est-ce qu'on essaie de trouver un entre-deux ? Donc, d'essayer de former un couple à notre sauce, selon nos propres règles ? Est-ce qu'on reste ensemble en suivant cette idée de communautarisme ? Est-ce qu'on se retourne vers le passé, vers la libération sexuelle ? Est-ce qu'on fantasme ? Et voilà. Il y a 1000 schémas possibles, il n'y a plus un schéma imposé par la société, et c'est pour ça qu'on est perdu et que selon moi on gère mal nos relations. C'est qu'on ne sait pas, plus personne nous dit faites ça, en tout cas, de façon frontale.
En écoutant les témoignages des 6 personnes qu'on peut voir dans le documentaire, j'ai eu l'impression d'une génération un peu désenchantée.
C'est vrai qu'en fait, je ne sais pas si on peut parler de génération désenchantée, mais il y a une sorte d'hyperconscience de ce que c'est que la rencontre, le couple. Justement, on a vu le divorce se démocratiser, donc on a vu nos parents se séparer, on a vécu pour beaucoup d'entre nous des familles recomposées. Donc c'est difficile de se dire le couple c'est solide et c'est toute une vie. De l'autre côté, on a quand même encore l'héritage français, romantique, la littérature et puis le cinéma. Donc c'est comme s'il y avait un double discours autour de nous qui nous rend à la fois, je pense, très romantique et très en recherche de l'amour. Et en même temps, très conscient que c'est pas possible, l'amour absolu et le couple invincible et la disparition du désir vis-à-vis d'autres gens, etc. On est partagé, je pense. On est une génération pas désenchantée, mais schizophrène.
Le documentaire, donc, il dure 50 minutes. Pendant ces 50 minutes, on voit 6 personnes qui témoignent, qui racontent voilà, un petit peu leur vision du couple à l'heure d'Internet. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas souhaité interroger des experts ou interroger d'autres personnages? Pourquoi est-ce que vous voulez séparer la partie histoire, témoignage qui est dans le documentaire et réserver les interviews d'experts, etc. au site Internet?
Je pense que finalement, on donne déjà énormément la parole aux experts. Et c'est vraiment bien de laisser parler ceux qui vivent et qui expérimentent ça au jour le jour. Sachant aussi que avec les technologies, avec Internet, tout va tellement vite que les usages changent. Par exemple, entre le moment où a été fait le documentaire et aujourd'hui, il y a des nouvelles applications de rencontres. Ça évolue tout le temps. Les gens, ce qu'ils peuvent dire dans le documentaire, leur vision peut avoir changé, évolué. Donc c'est en perpétuel mouvement, ça c'est assez intéressant. Et on voulait vraiment donner la parole aux anonymes, aux gens de tous les jours. Et je pense que c'est intéressant de séparer les deux. Et donc sur le site, on aura des pastilles vidéo assez courtes qui nous permettront d'élargir justement le panel d'intervenants et des interviews écrites pour les spécialistes. Et on pense que c'est parfait comme ça, que ce sera assez fluide. Les interviews écrites seront intéressantes. Maintenant, on est aussi à l'heure des vidéos courtes. Le documentaire, c'est très bien, mais on sait que la génération Internet a du mal à se concentrer et passe moins de temps sur des formats longs. Et je pense que cette idée de pastille vidéo, d'interviewer et de poster chaque semaine, ça peut être vraiment intéressant.
Et toi, plus personnellement, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses des applications comme Tinder, etc.?
Je pourrais te donner une réponse professionnelle et une réponse personnelle. La réponse personnelle, c'est peut-être la plus intéressante parce que finalement, je crois que je suis aussi paumée, si je dois l'avouer, que les gens que j'ai interviewés. C'est d'ailleurs pour ça que je me questionne et que je les questionne et que j'ai envie d'inclure un peu tout le monde là-dessus. J'ai rencontré Florian Delhomme dans une école de cinéma quand on faisait nos études. On est sortis ensemble, donc c'est assez classique. Et mon copain actuel, je l'ai rencontré sur Adopte un mec. Et ça fait un an et demi que je suis avec lui. Donc je peux absolument pas dire que les applications de rencontre c'est quelque chose de négatif, c'est ce qu'on en fait, c'est ce qu'on projette dedans. Après, oui, je peux avoir peur vis-à-vis de la déshumanisation, etc. Mais je sais pas, pour moi, finalement, Internet, c'est juste le reflet de la société. Si on décide d'être chacun dans notre coin, de suivre un repli communautaire, ça on peut en parler, pas que dans le domaine des rencontres, c'est des phénomènes sociétaux, Internet n'est qu'un miroir. Je suis dans l'engrenage comme tout le monde.
Ce qui en ressort, je pense, c'est Internet est un super outil qui nous a permis d'aller, enfin, avec les sites de rencontres, d'aller voir à droite, à gauche, de sortir de son cercle, de rencontrer des personnes différentes. Mais finalement, on tombe vite dans la consommation et il y a tellement de possibilités, tellement de choix, qu'au bout d'un moment, c'est assez difficile de se focaliser sur une personne et on a du mal à se déconnecter de ces sites et c'est ce qui reste, je pense. On devient tous boulimiques de la rencontre. Et finalement, on se focalise plus sur la rencontre que sur la finalité de la rencontre qui est censée créer une relation sérieuse avec quelqu'un. Et en fait, on multiplie les rencontres et on s'y perd un peu. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai et ce que je retiens de mon utilisation à titre personnel et des gens autour de moi. Le fait qu'il y ait tellement de choix que ça rende un peu fou.
ASVSTP devrait être mise en ligne sur une plateforme interactive mi-avril. Suivez-nous sur Twitter, Facebook ou sur RFI si vous souhaitez être tenu informé. À suivre, une autre œuvre documentaire dont le nom est un acronyme, Way or Die. À tout de suite. Atelier des médias, nous avons choisi de consacrer le mois de mars au printemps des médias. Malgré les bouleversements induits par l'Internet ou grâce à ces mutations, des innovations, des projets, des revues, des plateformes médias sont lancées quotidiennement en France et dans le monde. Leur point commun, l'exploration des possibles technologiques et éditoriaux du réseau et du numérique. Vous souhaitez en savoir plus? Rendez-vous sur l'Atelier des médias pour écouter notre épisode de la semaine dernière. Abonnez-vous également à notre podcast en utilisant une application dédiée. Vous pourrez faire tout cela dans une vingtaine de minutes, car pour le moment, restez avec nous.
http://atelier.rfi.fr. We took our first pill when the music was shit. I said fuck dancing all night, but then that's just what we did. It felt like floating. It felt like floating. Ding 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 ding.
Simon Buisson est probablement le réalisateur français le plus innovant. Diplômé de la FEMIS en 2010, chacune de ses productions est une nouvelle étape dans l'expérimentation cinématographique audiovisuelle de ce tout jeune homme. Dans l'atelier, nous vous avons déjà parlé de Jour de vote, une fiction documentaire sur les coulisses de l'Assemblée nationale, de Stain beau pays, une œuvre en forme de cercle infini co-signée par des jeunes de la ville de Stain en Seine-Saint-Denis. Il y a quelques mois, Simon a mis en ligne sa nouvelle réalisation co-signée Olivier Domangel et diffusée par France TV Nouvelles Écritures.
Alors, je m'appelle Simon Buisson, je suis né en 1985 au Lila et je fais des films interactifs depuis maintenant 5 ans.
Tu as sorti il y a quelques mois un film qui s'appelle Way or Die. Qu'est-ce que c'est ?
Alors, ça s'appelle Way or Die et Way pour W-E-I, week-end d'intégration. W-E-I, week-end d'intégration ou meurt. Voilà. Donc, c'est un film assez particulier parce qu'il est absolument interactif, qui raconte l'univers sulfureux des week-end d'intégration. Ce sont des rituels très connus en France, en tout cas connus des étudiants, qui arrivent chaque année en début d'année dans les grandes écoles type école de commerce, école de médecine ou école d'ingénieur, où les deuxièmes années accueillent les premières années. Donc c'est une fête, un week-end qui dure en général 24, 48 à 72 heures. Et voilà, alors c'est la débauche, c'est la fête, c'est la joie, mais c'est aussi autre chose, c'est un peu une forme de messe initiatique pour les étudiants de première année qui vont passer des rituels plus ou moins violents imposés par les deuxièmes années, qui se découpent de façon assez ritualisée, quoi, avec des ateliers très, très mis en place que les premières années font plus ou moins avec plaisir, mais ils savent très bien qu'il faut jouer le jeu d'une certaine façon pour être intégré dans l'école et alors pour autant voilà, préparer son réseau pour la suite, mais se faire des amis et voilà, et préparer son acceptance, comme diraient les Américains, dans l'école, quoi.
Accueil classique, hein. Les deuxièmes années, c'est la joue gros dur. Hein. On vous en fout plein la gueule, vous allez en baver.
Ah, c'est horrible! Oh putain, il s'est noyé!
Tout ce qui est appareil photo, caméra, téléphone et tablette dans la boîte sur la table, s'il vous plaît.
En fait, pour bien comprendre comment ça marche, il faut partir de la première scène du film qui est un étudiant d'école de commerce qui est découvert flottant dans un étang. Donc on découvre un corps. En fait, c'est vraiment le postulat de départ qui justifie tout le dispositif. C'est-à-dire qu'à partir de là, les enquêteurs qui arrivent dans ce week-end d'intégration, donc dans cette fête, pour élucider ce corps retrouvé dans l'étang, se disent le seul moyen de comprendre ce qui s'est passé, c'est de récupérer toutes les images, tous les fragments de vidéos qui ont été tournés par les étudiants eux-mêmes. Donc le dispositif se met en place, c'est-à-dire qu'on voit la première scène du film, on découvre ce corps-là, et l'expérience du film se lance à ce moment-là. C'est-à-dire une fois, on fait un flashback, on revient au début de la soirée, et si vous voulez, en temps réel, vous allez avoir la possibilité de passer d'une caméra d'un étudiant à l'autre pour comprendre non seulement qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas non plus qui est l'identité de ce corps, donc qui s'est fait tuer, Est-ce qu'il s'est fait tuer d'ailleurs ou est-ce qu'il est mort accidentellement et qui est responsable s'il y a un responsable quoi. Le film n'est fait qu'à partir de found footage, c'est-à-dire qu'on veut simuler que toutes ces images auraient été tournées par des étudiants d'école. Donc on reprend exactement les codes et la façon dont ces étudiants se filment, toujours avec des petites caméras, iPhone ou alors même des GoPro ou alors même un petit drone. On reprend vraiment tous les codes visuels. Quand on tape Way sur YouTube, on a tapé tout simplement Way et on tombe sur des milliards de vidéos de Weekend Intégration. Donc nous, on a simplement regardé des heures et des heures de vidéos pour un peu s'imprégner des codes, de leur manière de filmer. Et en fait, sur le travail de tournage, ça a été de reproduire exactement toutes ces images. Et après, au point de vue du scénario et je dirais de l'intrigue, de la dramaturgie, nos nœuds narratifs, on les a simplement écrits en faisant une revue de presse, je dirais, de 20 ans de faits divers de Weekend Intégration. Et en gros, toutes les scènes qu'on retrouve dans Way or Die, alors de fait, c'est extrême parce qu'il y a beaucoup de choses terribles qui se passent. C'est un peu un pot pourri de tout ce qu'on pourrait retrouver dans différents Weekend Intégration. Mais tous les nœuds narratifs très impressionnants, comme le type qui se jette d'une fenêtre du deuxième étage entre deux matelas, un type qui est noyé dans une piscine, enfin, toutes ces activités-là, on les a vues et on les a lues dans des articles. Alors souvent, c'est des articles de la presse régionale qui font un article sur un drame qu'il y a eu dans leur région, dans un domaine où se déroulait un week-end d'intégration.
Et messieurs, dames, pour vous, salto en l'air ! Yeah ! Oh !
Oh ! Oh ! Il est trop con parce qu'en plus, l'eau, elle est à 10 degrés.
Non, mais il est portiche quand même. Supplément salto. Non.
Oh, j'ai envie.
Romain ? Attends, il est où là ? Putain, j'aime pas quand il... Franchement, il fait le con, je m'énerve. Romain ? Romain ?
Romain ?
Romain ?
Romain ?
Tu vois un truc ou pas ? Attends, c'est long là. Romain !
Romain !
Eh, appelez Félix, c'est moi, prévenez quelqu'un.
Donc à travers cette fiction, il y a un regard critique sur une sorte de phénomène social qui est assez étrange. Et vous avez donc choisi de le traiter avec un dispositif très particulier pour le spectateur. On peut donc observer ou vivre ce week-end d'intégration et vivre le drame dont on sait qu'il se termine mal, en tout cas qu'il y a un mort à la fin puisqu'on le voit dès le début. On peut le revivre avec tout un dispositif de caméras et on peut naviguer à travers toute une série de caméras, que ce soit des caméras de surveillance, des téléphones, des appareils photo, etc. Et au fur et à mesure de notre découverte du film, on peut choisir quelle scène on veut voir, comment on veut la voir, etc.
Voilà, c'est un peu, vous êtes un peu comme un réalisateur de match de foot qui a devant lui tous ses écrans et qui, pour montrer un but le mieux possible, va se servir d'une dizaine de caméras et faire des, je dirais, il va faire un montage lui en direct pour proposer au spectateur la meilleure manière de voir ce but. Way or Die, c'est un peu décomposer toutes ces caméras et vous proposer à vous, internautes spectateurs, de faire votre propre film. Mais la petite subtilité, c'est que c'est en temps réel. C'est-à-dire que le film se déroule et avec, au moyen de petits boutons sous votre écran, vous allez, si des caméras tournent au même moment, avoir la possibilité de switcher de l'une à l'autre. Et donc, ça crée toute une particularité sur votre position de spectateur. C'est, allez-vous être voyeur, c'est-à-dire aller juste regarder les espaces un peu... les humiliations, les trucs un peu sulfureux, alors on questionne ça, est-ce que vous allez juste être excité par le fait de regarder ça ou avoir un statut peut-être plus un statut presque de documentariste, à regarder les choses différemment, à pas forcément aller voir les caméras qui rentrent dans les petites pièces obscures, mais à regarder des plans plus larges qui vont chercher quand même ça plus une atmosphère pour comprendre le phénomène de ces rituels, ou même enquêteur, c'est-à-dire aussi un statut spectateur qui va lui chercher, vouloir absolument comprendre comme un peu un juge regarderait ces images pour se dire qu'est-ce qui s'est passé exactement.
Qui est mort, voilà, comment il est mort.
Garder un peu ces images comme des pièces à conviction et passer d'une image à l'autre pour essayer de comprendre comme ça exactement les différents faisceaux de culpabilité, parce que c'est un film qui contient beaucoup de fausses pistes, quoi. Et à tout moment, on peut se dire, tiens, c'est Jules qui va mourir, ah non, c'est JB, ah non, c'est Romain. Et donc, sans cesse, comme ça, on suit nos protagonistes en se demandant dans quelle trame il va y avoir à un moment un basculement, que ça va vriller et qu'il va y avoir un mort, quoi.
On était au bord de l'étang avec Romain, il a sauté.
Est-ce que tu veux parler plus fort ?
On était au bord de l'étang avec Romain, il a sauté et il n'est pas remonté à la surface.
y a un côté expérimental dans tout ton travail, peut-être encore plus dans celui-ci, parce que c'est rare de s'attaquer à la fiction quand on fait des œuvres pour le web. Et ensuite, il y a quand même un dispositif qui est où tu tentes à la fois de garder une narration dramatique un peu traditionnelle et en même temps d'impliquer le plus possible le spectateur dans les choix. Qu'est-ce que c'est pour toi l'intérêt de faire autant d'expériences, d'expérimenter autant aujourd'hui ?
L'idée, c'est d'aller. Enfin, moi, personnellement, ce qui m'attire, c'est vraiment la nouveauté que ça implique, nous, en termes d'écriture, de recherche. Enfin, c'est grisant. Enfin, c'est bête, hein, mais je veux dire, quand on écrit Why or Die avec Olivier, on a autant l'impression.
C'est le co-auteur du scénario, Olivier de Mangel.
Voilà, exactement, Olivier de Mangel. Quand on écrit ensemble, on a cette impression de. J'exagère, mais peut-être d'être au début de siècle et de faire des premières images avec une caméra, au sens où le dispositif de monstration, qui est donc le web et de façon interactive, est tellement nouveau. Que dès qu'on on a cette sensation un peu au moment d'écrire le film, c'est un peu comme si on construisait la salle de cinéma au même moment, en se demandant, attends, avec l'interface, est-ce qu'il faut que ce soit comme ça pour le confort du spectateur, pour qu'il soit bien à l'aise avec la narration et tout. Donc en termes d'écriture, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, nouveau, je dirais, donc assez excitant. Et après, nous, avec Olivier, on est persuadés que les questions que ça va poser au spectateur et les choix qui se présentent au spectateur vont évidemment le questionner encore plus et d'autant plus sur ce qu'il est en train de regarder, sur son rôle dans cette histoire. Way or Die parle un peu aussi de cette génération du buzz. Est-ce que c'est pas parce que ces spectateurs ont absolument envie de voir ces images, que ces images sont faites, et donc que même, est-ce que le spectateur ne serait pas au fond responsable de ses actions, parce qu'à vouloir les regarder avec cette surenchère de l'image, on produit sans cesse des images de plus en plus impressionnantes, donc on produit des gestes de plus en plus dangereux d'une certaine façon. Donc on aime l'idée de questionner comme ça la responsabilité de ce spectateur. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, entre celui qui va être l'enquêteur dans cette histoire et qui va essayer de tout regarder de façon je dirais assez saine, et celui peut-être plus malsain qui va être dans un grisé par ces images et qui va avoir une posture de voyeur. De fait, c'est ça qui est amusant, c'est qu'il va pas voir la même histoire, va pas comprendre exactement la même chose. Si ce n'est qu'on a fait quand même très attention avec Olivier, c'est que cette dernière scène, est un peu le recul qu'on a par rapport à ce qu'ils font. Et par exemple, on a fait très attention qu'il n'y ait qu'une seule fin et pas cinq fins. L'idée n'est pas un jeu vidéo. On pourrait pas choisir de tuer ou de pas tuer à la fin l'étudiant. C'est pas ça. Malgré tout, ça reste quand même un film où on a un regard et un propos d'auteur. Et on a dans l'interaction, on a essayé de le préserver, quoi.
T'inquiète. C'est bon, là ? T'es chaud ?
Ouais, c'est bon.
Allez, au pire, si tu meurs, on efface la vidéo.
Vas-y. Quoi ?
Un, deux, trois !
J'ai tellement grincé des dents, je voulais partir et m'échapper dans un lagon.
Si on se place maintenant du point de vue du spectateur, si on reste toujours dans cette idée de cinéma un peu expérimental ou d'expérience cinématographique, il y a une convivialité qui est souvent liée à l'œuvre audiovisuelle, donc que ce soit dans la salle de cinéma ou devant l'écran de télé familiale. Là, c'est une invitation à regarder un peu les choses seules, au maximum à deux, parce qu'en tout cas, il faut être près d'un écran, pouvoir interagir. Est-ce qu'il y a une volonté aussi d'explorer peut-être la solitude des personnes devant les écrans ou le fait qu'on est seul?
Ah, c'est sûr qu'il y a un vrai parti pris à ce niveau-là. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'imaginer que l'internaute, le spectateur, est seul. C'est une position de fait. Il a sa souris dans la main, il a une position active face à un contenu où il est seul devant. Et voilà, le mot-clé, c'est qu'il est actif par rapport à un cinéma où il est passif. Au cinéma, on écrit une histoire pour une infinité de personnes. Donc l'histoire doit être la plus parfaite possible pour convenir à une infinité de personnes. Avec Olivier, c'est tout l'inverse. On écrit une infinité d'histoires possibles pour une personne. Malgré tout, ça inverse complètement même la réflexion et le travail de nous, notre travail d'auteur par rapport à cette histoire. Et moi, je trouve ça, enfin, de fait, aujourd'hui, en 2016, passionnant de se poser cette question et de mettre l'internaute spectateur dans cette position comme ça, de démiurge d'une certaine façon, parce que c'est lui qui choisit, c'est lui qui va, c'est un peu c'est un peu un fantasme, un peu même de spectateur qui regarde un film ou de cinéma traditionnel et qui se dit, mais comme en fait, en débattant, on sort d'une salle entre potes, on débat, ah ben moi j'ai préféré ce personnage, moi j'ai adoré cette scène. Là, l'idée, c'est de se dire, bah, si t'as préféré ce personnage ou même cette scène, tu vas pouvoir ne regarder qu'elle. Aujourd'hui, le web nous permet ça, d'aller encore plus loin dans le fait de raconter une histoire. Et ça, nous, en termes d'écriture, on trouve ça passionnant, quoi.
Et en même temps, donc, face à cette solitude du spectateur, vous avez choisi de construire votre film avec ce que vous présentez, c'est une fiction toujours, hein, mais comme des images collectées dans les téléphones, dans les enregistrements privés des différents personnages de ce film. Et là, c'est aussi une interrogation sur le fait que plus rien ne peut se passer sans que ce soit capté par au moins 3, 4, 5 caméras différentes en même temps.
Voilà. Parce qu'en fait, dans ces écoles, il y a une sorte de rendez-vous une semaine après le week-end où on vient diffuser les meilleures images, les meilleurs extraits du week-end d'intégration. Donc c'est pour ça qu'il y a cette surenchère de l'image et que les étudiants filment sans arrêt. Et voilà, et en filmant, en fait, ils vont aussi produire des choses. Parce que forcément, si on est amusé par l'idée, je sais pas, de mettre un entonnoir dans la bouche d'un pote et de lui verser de l'alcool, à partir du moment où j'enclenche ma caméra pour filmer ça, on va tout d'autant plus vouloir que la personne qui est en train de faire couler la vodka dans l'entonnoir de la personne en face, on va vouloir qu'il s'arrête encore plus loin, au sens où cette image aura plus de force si elle est plus impressionnante, quoi. Et voilà, il y a ce rendez-vous inconscient du moment dans l'amphithéâtre où on va regarder ces images. Ce rendez-vous inconscient fait qu'on a toujours envie d'avoir l'image, enfin d'avoir la séquence vidéo la plus sulfureuse, quoi.
Mais on peut te parler deux minutes?
Bien sûr.
Ouais, on voulait te parler de Félix, là. Il l'a couvert de canigoutes tout à l'heure. Et moi, il a voulu me noyer dans la piscine.
Et tu t'es noyé?
Non.
Bah alors?
Bah, attends, reste. Non, ça peut pas continuer comme ça. Tu l'as dit tout à l'heure que tu voulais pas qu'il dérive.
Et c'est une dérive?
Évidemment que c'est une dérive, ça.
Je sais pas, Vincent, c'est une dérive?
Écoute, je sais pas si c'est une dérive, je pense que c'est juste Félix en petit.
Voilà. Il y a un truc que je comprends pas, vous êtes des bisous ou pas? Je comprends pas, Vincent, c'est des bisous ou pas?
Oui, c'est clairement des bisous. Ouais.
Voilà, vous êtes des bisous, c'est grave, c'est tout.
Ah, qu'il faut être un peu.
On l'a bien compris, tu as une œuvre qui est particulière pour un jeune cinéaste formé dans une école, la FEMIS, une école de cinéma traditionnel. Qu'est-ce que c'est ton objectif? Où est-ce que ça te mène tout cela? Est-ce que tu sais à peu près où tu vas? Quelles sont tes envies? Est-ce que tu as envie, par exemple, que ce type de dispositif arrive au cinéma? Ou des choses comme ça?
J'ai pas envie que ce type de dispositif arrive au cinéma. Par contre, j'aimerais que le cinéma arrive à ce type de dispositif. Au sens où c'est un peu ce qui se passe avec Way, c'est-à-dire qu'on commence avec du fun footage, une qualité de petit téléphone un peu pourri, quoi. Et plus le film avance, plus en fait on a remplacé les petites sources par des grosses caméras, enfin une grosse caméra de cinéma d'une certaine façon. Donc c'est un peu pousser, moi, mon objectif là-dedans, c'est de pousser le spectateur à aller vers le web pour se rendre compte qu'en fait, bah, c'est un écran comme un autre. Et que là où, je sais pas, énormément d'auteurs, réalisateurs se tuent à faire des milliards de courts-métrages qui sont très peu vus, très durs à distribuer, pourquoi au fond le web serait pas un parfait écran pour eux? Et même au-delà de ça, le cinéma, même long métrage, pourquoi pas? Et enfin, je trouve les réflexions, les questions qu'on s'est posées en tout cas dans Way and Die sont passionnantes et on peut encore s'en poser, je pense, des millions. Ça ouvre tout un pan et un champ de possibilités. Moi, mon objectif, c'est de continuer à défricher ce terrain et peut-être d'une certaine façon quand même pour rassurer d'autres auteurs, pour rassurer enfin les auteurs et aussi surtout les diffuseurs à imaginer que c'est un vrai terrain de diffusion, que ça fait de l'audience, qu'au fond l'enjeu pour un diffuseur c'est de faire de l'audience, que rencontrer son audience on peut le faire sur le web et voilà et qu'en plus ça amène quand je dis un champ des possibles c'est d'un point de vue technologique de fait, mais aussi d'un point de vue idéologique. C'est-à-dire que je trouve ça passionnant de questionner, c'est exactement les questions que tu me posais sur la place d'un spectateur seul face à un écran, les choix qu'il fait, comment on peut responsabiliser d'une certaine façon le spectateur. Et moi, voilà, toutes les étapes qui suivent, j'ai envie de creuser dans cette interaction. Après, voilà, dans tous mes projets, c'est vrai que de C'est un beau pays aux communes de Paris, enfin, un jour de vote, c'est... J'essaye toujours d'adapter le principe interactif au sujet. Et voilà, ce qui fait que l'idée, c'est pas d'arriver avec une sorte de, tout d'un coup, une charte d'interaction et dire, bah maintenant, on va faire une interaction de ce type. Ce qu'il y a de passionnant là-dedans, et je pousse tous les auteurs qui écrivent pour le web à chaque fois à inventer de nouveaux moteurs, de nouvelles manières de montrer les choses qui sont en parfaite adéquation avec leur sujet et qui souvent servent et portent complètement leur sujet et leurs propos, quoi.
Et c'est aussi un espace de liberté dans les choix et dans la forme et dans... On ne se pose pas du tout les mêmes questions que quand on va avoir une diffusion à la télé ou une diffusion au cinéma.
Ouais, enfin, il y a le mot-clé là-dedans, c'est la liberté, quoi. Dieu sait que si j'avais dû faire Way or Die en unitaire télé, ça aurait été beaucoup plus dur. On m'aurait, enfin, la signalétique, ce qu'on appelle la signalétique, enfin, voilà, on m'aurait dit, alors c'est interdit au moins de 16 ans, et en plus, tu ne peux pas montrer ça, ça, ça. Là, j'avais dans le web presque une liberté de cinéma. C'est-à-dire, je pense que même, enfin, si je pense à Spring Breakers d'Harmony Korine, qui va aussi très loin dans ce qu'il montre, on avait cette liberté sur le web parce que justement c'est un nouveau support, que il y a, je pense que les diffuseurs ont conscience de ça, que les internautes voient déjà tellement de choses qu'en fait on va pas mettre de barrière à un auteur qui a aussi envie d'en raconter d'autres. Là où sur une chaîne plus traditionnelle, je crois que c'est plus compliqué, quoi. Donc il y a cette liberté à ce niveau-là. Et après, c'est vrai que même en termes d'écriture, avec Olivier, ça a été passionnant, quoi, de trouver une nouvelle manière d'écrire, en tableau cette fois-ci, en ayant toujours conscience de la simultanéité de ces scènes, etc. Enfin, on n'a pas du tout écrit comme un scénario classique, quoi. Et ouais, je crois que c'est vrai que je pense que ce qui excite les artistes, c'est l'invention, l'innovation, la nouveauté. Le web, c'est alors là, et en plus je crois qu'on en est qu'au début, quoi. Mais parfois c'est aussi, je suis étonné, je trouve que j'ai l'impression que les gens ne s'en rendent pas compte, enfin les gens, les auteurs ou les diffuseurs ne se rendent assez peu compte du champ des possibles qui est ouvert grâce à Internet. La VR arrive, alors je crois que la VR séduit plus parce que
c'est la réalité virtuelle.
Voilà, elle a cet aspect complètement immersif encore plus, donc on y va plus naturellement. Mais au fond, la VR pose exactement les mêmes questions qu'on s'est posées dans Way or Die, c'est-à-dire à savoir d'écrire des histoires plus ou moins simultanées où le spectateur est à nouveau dans une position de faire des choix, de ce qu'il a envie de voir, de ce qu'il n'a pas envie de voir, de la possibilité d'avoir ce don un peu d'ubiquité, de pouvoir aller d'un endroit à un autre, alors que c'est le spectateur qui le veut. C'est de fait des réflexions qui sont complètement nouvelles et qui appartiennent pas du tout au cinéma plus classique. Et voilà. Après, si je vais au cinéma classique, parce que je me pose aussi cette question, c'est pour y amener une innovation, forcément, c'est-à-dire que je verrais pas l'intérêt de reproduire des codes qui ont déjà été rodés de tous les côtés. Et voilà, je vois la série par exemple est un terrain super pour tester des nouveaux codes de montage, des nouvelles manières de filmer. C'est, je pense que c'est le travail qu'on doit faire aussi, c'est de l'amener pourquoi pas au cinéma, quoi. Ce que fait Fincher dans Social Network, c'est-à-dire que la première scène de Social Network, c'est une scène qui dure 2 minutes, de la discussion de Zuckerberg avec sa copine. Au scénario, elle faisait 20 pages. Jamais quelqu'un aurait pu dire 20 pages, ça peut durer 2 minutes. C'est Fincher le sait parce qu'aujourd'hui les spectateurs ont une capacité d'ingurgiter comme ça des dialogues extrêmement vifs qu'ils n'avaient pas il y a 20 ans, quoi. Donc je crois qu'il faut toujours sans cesse questionner un peu les codes et les façons. C'est ça, et même la façon même qu'on a d'écrire des histoires et comment la réadapter sans cesse à la pertinence et à la culture nouvelle du spectateur, quoi.
Il nous reste quelques minutes pour évoquer Spicy, une plateforme qui produit et diffuse des reportages en faisant le pari du payant par abonnement ou paiement à l'acte. Spicy, qui revendique aussi un style journalistique iconoclaste et corrosif, inspiré du site américano-canadien Vice ou des premières années de la chaîne française Canal+. Mathias Virilli de l'Atelier des médias est allé à la rencontre des équipes de Spicy il y a quelques jours, 8 mois après le lancement de cette plateforme. Son reportage est à écouter en version longue sur l'Atelier des médias, extrait à suivre.
Je suis Thomas Huchon, je suis journaliste et réalisateur pour Spicy.com et je m'occupe du projet Conspi Hunter.
Conspi Hunter vous présente Do You Speak Conspi, notre anti-dictionnaire conspirationniste.
Conspi Hunter, c'est une série documentaire qui se base sur un reportage qui est sorti en 2015. Comment nous avons piégé les complotistes. L'idée, c'est de déconstruire, de décrypter des théories du complot qui circulent sur Internet afin de permettre aux gens de s'informer de manière plus saine et en tout cas de pas se faire désinformer par tout un tas de gens qui ont décidé de faire d'une activité sur Internet un truc très lucratif.
Qu'est-ce que ça veut dire piéger les complotistes ?
Mais ça veut dire essayer de rentrer dans l'univers dématérialisé, l'univers Internet des théories du complot. C'est rentrer dans ce qu'on appelle la complosphère. Hein, c'est un mot de Tristan Mendès-France qui a inventé ça. Eh bien, c'est rentrer dans cette grosse machine pour essayer de la comprendre. Et pour la comprendre, eh bien, il faut faire comme eux. Donc on est devenus nous-mêmes des petits conspis. On a inventé une théorie du complot de toutes pièces. Et cette théorie du complot qu'on a inventée, on en a fait un petit film. Ce petit film, on l'a mis sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et il a connu une vie, on va pas dire trépidante, mais il a, pendant 3 semaines, été vu 10 000 fois à peu près sur YouTube. Et partagé plus de 1000 fois sur les réseaux sociaux. Et surtout, il a été repris in extenso, sans aucune vérification de leur part, par des sites internet qui ont vraiment pignon sur rue, qui font partie des 2000 plus gros sites français, qu'on va pas citer ici pour pas leur faire de publicité, mais qui sont vraiment des sites conspirationnistes qui prétendent réinformer les gens. Et ben ces sites qui prétendaient réinformer leur public, eh ben ils ont répété un mensonge inventé de toutes pièces par une bande de punks dans une salle de rédaction, quoi.
Cette idée nous est venue il y a un an, en janvier 2015, quelques jours après les attentats terroristes qui ont bouleversé la France.
Pour en savoir plus sur Spicy, sur Way or Die ou sur ASVSTP, c'est bien entendu sur l'Atelier des médias. Une émission, un site, un projet porté par Manon Mella, Camille Deloche, Mathias Virilli, Simon Decreuse, Ziad Malouf, RFI et les blogueuses, blogueurs de Mondoblog. Il vous reste encore quelques jours jusqu'au 31 mars pour présenter votre candidature à la saison 5 de notre plateforme Mondoblog. Infos et inscriptions sur mondoblog.org. Je précise que tout sur Mondoblog est gratuit, à but non lucratif et sans publicité. Salut à toutes et à tous, rendez-vous la semaine prochaine, nous continuerons notre voyage au pays des innovations médias.
Pour se faire accepter, Lionel devra envoyer les bons signaux. Il va suivre les stars de la complosphère, Alain Soral, Thierry Messant ou encore Reopen 9-11.